Et finalement, cette identification de ces exceptions comme pathologiques a été comme à un moment refusée. Parce que qui dit pathologie dit norme. Hein. S'il y a une pathologie, c'est que il y a une norme. Si vous dites que telle personne est malade, c'est que vous présupposez que il y a une norme qu'on appelle la santé. Et c'est le décalage entre la norme qui est la santé et l'état, quoi, soit que vous ressentez vous-même, soit que vous voyez chez autrui, qui vous permet de dire, tiens, lui, il est malade. Alors, ça peut être une maladie très anodine, ou une maladie plus rare ou plus subtile. Mais donc, cette différence entre le normal et le pathologique, et on pourrait dire la terre de naissance de toutes les théories qu'on va, enfin de la théorie du genre qu'on va étudier. Ce décalage entre le normal et le pathologique. Parce que, vous voyez que c'est une question de critères. Hein. Alors, je ne vais pas vous donner trop le vertige pour pas que vous soyez... Mais, quel est le critère pertinent? Quel est le critère légitime? Aristote dit, ce qui est naturel, c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc pour Aristote, il y a une sorte d'induction. Induction, hein, c'est-à-dire je pars de cas singuliers et peu à peu j'arrive à une proposition universelle. Il y a une sorte d'induction d'un processus naturel à partir de ce qui se passe le plus souvent. Aristote, donc, ne démontre pas la nature. Pour Aristote, c'est impossible de démontrer la nature des choses. La nature, elle ne se démontre pas parce que pour démontrer, vous êtes obligé de vous appuyer sur quelque chose de plus certain, à partir duquel vous allez arriver à ce que vous voulez démontrer. Or, pour Aristote, quelque chose de naturel, c'est très certain parce que ça va de soi, quoi. C'est ce qui est le plus fréquent. Et donc, dans la perspective d'Aristote, qui n'est pas propre à lui d'ailleurs, mais qu'on voit très clairement présenté chez lui, le critère, c'est ce qui arrive le plus souvent, et donc l'exceptionnel, le rare, apparaît comme un dysfonctionnement de quelque chose de naturel. Aristote prend l'exemple. Dans l'immense majorité des cas, les moutons ont quatre pattes, mais parfois il y a des moutons qui naissent avec cinq pattes. Ça, c'est la contingence de la matière, un dynamisme de la matière naturelle qui fait que, de manière hasardeuse et contingente, parfois il y a un mouton à cinq pattes qui apparaît. Mais évidemment, si à chaque fois les moutons avaient cinq pattes, on ne pourrait pas dire que c'est quelque chose, on dirait que ça devient naturel. Donc, ce qui est naturel, ce qui est propre à une chose, qui est naturellement attaché à une chose, c'est ce qui se passe le plus fréquemment. Bon. Donc, par rapport à la notion de critère dont je parlais, oui.
Mais Aristote, il étudiait la substance. Alors, il pouvait atteindre la nature des choses.
Oui, mais quand il analyse la substance, il analyse toujours une substance d'une chose de telle nature. Donc, la substance qu'est le mouton, justement, c'est une substance de nature de mouton. Donc, autrement dit, il peut ensuite réfléchir sur ce qu'est la substance en tant que substance, en métaphysique. Mais quand moi, je côtoie des gens, enfin des réalités, Je ne perçois jamais des substances comme ça. Là, j'ai en face de moi des substances de nature humaine. Ça s'appelle des personnes. Si je vais dans le jardin, je vais voir des substances végétales qui sont des arbres. Donc évidemment, ce qui va déterminer l'intelligibilité de telle substance, c'est ce qu'on appelle sa nature. Or, la nature d'une chose, je la perçois, justement, les caractéristiques propres d'une chose, ce qui me permet de déterminer, de qualifier la nature d'une chose, c'est ce que je vois le plus souvent de cette chose, notamment de par les activités qu'elle pose. Oui, effectivement. Et donc, si je dis, c'est dans les caractéristiques les plus fréquentes, hautement fréquentes, que je perçois qu'il se passe telle chose avec telle personne, ou, enfin, avec tel type de réalité, je vais dire que c'est une qualité naturelle à cette chose. Oui. Donc, tout ça pour dire que le critère du normal et du pathologique, c'est évidemment le normal, le naturel qui apparaît, le critère habituel. Et justement, le pathologique, c'est, dans cette hypothèse, est vu comme une privation de ce qui normalement devrait être. La privation, c'est quoi ? C'est lorsqu'une chose manque alors qu'elle devrait être là. Oui. Je suis privé d'une qualité à laquelle j'étais apte. Voyez, si je nais avec un handicap, la notion de handicap implique que justement je suis privé de quelque chose que je devrais avoir en tant que je suis être humain. Si je nais, je nais aveugle, c'est que je devrais voir de par ma nature d'être humain. Et puis de fait, là, pour toutes sortes de raisons contingentes, je nais en étant aveugle. Donc ici, vous voyez, ça c'est un point très important. La privation, elle renvoie à une aptitude naturelle. Je ne peux saisir qu'une chose est privée que parce qu'elle a une aptitude. Vous voyez ? Je ne peux pas dire que, au sens strict, la privation implique en creux une aptitude, une disposition naturelle. Bon. Donc, tout ça pour dire que dans ce mode de pensée, une exception, d'une certaine manière, ne remet pas en cause la norme, ne remet pas en cause la nature. Bon. Et on pourrait dire que la concentration ici de la recherche va porter qu'est-ce qui s'est passé dans le devenir pour qu'une chose qui avait une aptitude naturelle à devenir telle chose, justement, n'ait pas pu vraiment développer ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors après, il y a différentes causes. Et justement, l'étude de la médecine, enfin l'étude médicale ou l'étude scientifique, va chercher à isoler, à comprendre. Bon. Dans la perspective qui ouvre la théorie du genre, les choses sont assez différentes. Enfin, au début, elles ne semblent pas différentes, et on va voir que peu à peu, ça va s'ouvrir. Dans le texte de la page 5, dans les deux textes de la page 5, je vous ai mis deux petits extraits d'un livre assez important, donc qui s'appelle « Recherche sur l'identité sexuelle ». Le terme « identité sexuelle » traduisant le mot anglais « gender », c'est la traduction française, donc un texte de 1969, dans lequel Robert Stoller, qui est un psychiatre américain, justement, va réfléchir, va essayer de comprendre les troubles, certains troubles ressentis par des personnes quant justement à leur identité sexuelle. Autrement dit, il va partir de cas qu'on dirait pathologiques Et il va essayer de d'envisager les présupposés de ces cas pathologiques. Comment rendre compte de cette diversité? Donc, si vous voulez, c'est... Comment dire ça? Je vais lire le texte tout à l'heure, mais... au lieu d'être dans un modèle où il y a ce qui arrive le plus fréquemment, et puis il y a des cas un peu exceptionnels qui sont d'emblée, du coup, vus comme des privations, donc le modèle ici d'intelligibilité reste ce qui se passe le plus souvent. Là, il y a une perception, alors à l'origine, hein, c'est une perspective médicale aussi, donc ça semble assez proche, sauf que la perspective va être un peu différente. Des cas même rares vont, pour être compris, demander d'élargir le fonctionnement de la nature, de ce que l'on appelait jusqu'alors la nature. Autrement dit, il va falloir essayer de saisir ce qui rend possible une plus grande diversité de comportements. Mais à partir du moment où vous essayez d'honorer une plus grande diversité de comportements, ce qui arrive le plus souvent, à la limite, c'est pas ce qui est le plus intéressant, ou ce qui arrive le plus souvent n'a plus, on pourrait dire, une sorte de supériorité, de légitimité dans l'ordre du critère. Ce qui arrive le plus souvent, c'est une version, mais il y en a d'autres. Et ce qu'il va falloir comprendre, c'est comment on peut arriver à des versions différentes. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire là ou pas, mais c'est un point très important. Autrement dit, au lieu de d'emblée dire, bah voilà ce qui arrive le plus souvent, ça c'est la norme, c'est la santé. Ah, puis il y a des exceptions qui sont pathologiques, donc il va falloir les soigner. Là, il y a un travail en amont de dire, bon, voyons les différentes versions. Là, en fait, on va voir différentes versions, hein, c'est des troubles, de ce qui est vécu comme étant des troubles de l'identité sexuelle. Ah, il peut y avoir toutes sortes de cas, on va voir, il y a différents cas possibles. Là, tout à l'heure, j'ai pris le cas de quelqu'un qui avait tous les aspects biologiques d'un homme, mais qui se sentait femme, ou le contraire. Mais on va voir qu'il peut avoir des modalités différentes, certains aspects qui paraissent plutôt masculins, d'autres féminins, etc. Donc, une sorte de mélange, comme si la distribution qui, la plupart du temps, se faisait bien, là, justement, se faisait mal.